sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanré. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez n'est pas celle inimitable d'Yves Tanré, le créateur et l'animateur de cette émission qui fête cette année ses 10 ans d'existence, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Yves, on sait que tu nous écoutes, sache qu'on pense à toi très fort et qu'on espère te voir très vite. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons John Jefferson Selve, créateur de la revue Possession immédiate et écrivain, auteur de Métacarpenteur chez Flammarion et de Notre chute chez Zone Critique, qui vient nous parler de son dernier roman La matière humaine, paru chez Gallimard dans la collection Aventure. Bonjour John.
Bonjour Frédéric.
Avant de s'ouvrir, le livre commence par deux citations, une d'Ézéchiel et une de Tarkos. Vous êtes un lecteur à la fois de la Bible et de la poésie contemporaine ?
Oui, oui, je pense que c'est nécessaire. Parce que, et puis surtout, je suis tombé sur deux épigrammes, sur deux citations qui correspondaient vraiment très bien. Tout de suite, quand j'ai eu l'idée de ce livre, comme tout le monde, je suis entouré de livres. Et je suis tombé dessus presque par hasard. J'aime bien ce genre de choses.
Ce sont les citations qui sont venues à vous.
Oui, presque. Oui. Je me dis, hop, non, je ne suis pas fatigué.
Et il y a aussi un vers de Nick Cave. Alors Nick Cave, c'est entre la Bible et Tarkos, à égale distance.
Oui, peut-être, parce que si on reprend Nick Cave dans sa jeunesse et ses légendaires 16 overdoses de répertoriés et ce qu'il devient maintenant, une sorte de post-Bob Dylan, prêcheur et grand conseiller. Oui, je pense qu'il a traversé toutes ses facettes. C'est assez fascinant.
Alors, votre livre fait le récit de deux protagonistes, Saul et Antea, perdus entre soirées mondaines et cocaïne, la veille des élections présidentielles de 2027, qui s'apprêtent à porter au pouvoir le RN en France. Quel lien vous faites entre la drogue et l'avènement du parti de Marine Le Pen ?
Le lien, il peut paraître lointain, mais en tout cas, il raconte quelque chose d'un malaise, d'un grand malaise de l'époque et probablement d'une sorte de frustration. Le vote RN est une frustration. Prendre des drogues, c'est pas une frustration, mais c'est un échappatoire. Et peut-être que les deux mots peuvent s'interchanger entre ces deux ressentiments. Et j'y vois surtout un état des lieux. Un état des lieux que je trouve un peu catastrophique. Donc voilà, il y avait quelque chose de naïf au tout début, j'avais quand même le sentiment ces dernières années et ces derniers mois de plus en plus que voilà, c'est comme si c'était fait pour le Rassemblement National, alors qu'on voit quand même que ce sont des buses totales. Bon, on l'a vu sur les législatives, mais j'ai l'impression que dans l'air du temps, c'est passé et chaque jour nous le démontre. Donc, et ça reste quand même, je crois, un danger.
Vous faites aussi le portrait d'une ville qui est désenchantée, c'est Paris. Alors Paris est-il une défaite ?
En tout cas, alors c'est peut-être quelque chose lié au temps qui passe, mais j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui ne se passe plus, ne serait-ce que pour vivre, pour que les gens vivent dans cette ville, que les jeunes vivent dans cette ville, ça devient très difficile. Et puis, c'est une défaite, oui, peut-être, mais la défaite, elle est liée par la technique. Et puis, dans le livre, ce n'est pas qu'une défaite, c'est aussi quand même des amitiés et des rencontres. La nuit, je critique Paris dans ce que ça devient, mais je pense que ça vaut presque pour toutes les capitales. Okay. Et même les grandes villes, tout se ressemble de plus en plus.
Surtout que la cocaïne, en fait, est arrivée partout. Hein. Vous faites ce constat-là de la démocratisation de la cocaïne qui avant était réservée à une élite à la fois intellectuelle et financière et qui maintenant a remplacé quasiment la marijuana ou le shit.
Ah oui, je crois même qu'il y a plus de ventes de cocaïne que que d'herbe. Mais c'est pas tant le fait de la consommation qui m'a intéressé là que de voir aussi la situation structurelle de la consommation. C'est-à-dire que, contrairement à 10-15 ans, on commande par une application, ça vient en 30 minutes, si ça met plus, les gens ne sont pas contents. Même le rapport à la drogue qui pouvait avoir quelque chose d'un peu ritualisé ou de sacralisé, c'est tubérisé totalement. Et il y a aussi, dans l'hypocrisie que Paris a, parce que le Parisien se veut quand même quelqu'un de, d'éclairé ou bien de moral, l'hypocrisie, elle est quand même qu'on commande en centre-ville, à la périphérie, qu'on joue une lutte des classes de plus en plus obscène sans s'en rendre compte, qu'il y a des guerres de gangs et de territoires pour nous livrer, nous, petits Parisiens, très facilement. Et puis après, il y a des côtés presque drôles maintenant. C'est-à-dire que le dealer lambda à Paris envoie par mail ses applications. J'en connaissais un même qui envoyait des recettes le lendemain pour se sentir bien.
Pour éviter la gueule de bois,
oui,
la redescente.
Oui, oui, donc, mais du coup, c'est une tristesse, parce que c'est comme si le marketing avait infusé partout, ce qui est le cas, je pense. Et il y a une offre et demande qu'on ne comprend pas trop. Voilà. Et puis, du coup, la moralité ou la bien-pensance parisienne m'a toujours un peu agacé sur ça.
Donc là, elle éclate au grand jour, parce qu'en fait, la plupart du temps, les vendeurs sont très jeunes, et de plus en plus jeunes.
Il y a des subterfuges pour pas se faire prendre. Je sais qu'à une époque, il y avait des dealers femmes. Ils ont tenté, à une époque, cette structure. Il y a eu des enfants, mais très peu. Il y a eu une sorte de code d'honneur, je pense, du consommateur parisien qui a refusé ça. Mais cette histoire qui commence le livre avec la mort symbolique de l'enfant, enfin symbolique, allégorique, vient d'une histoire vraie. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est vrai que...
Donc c'est un enfant de 10 ans.
Oui, oui, oui. Y a...
Et qui meurt sous les coups de la police. D'une arrestation violente, en tout cas.
Oui, 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 ça c'est plutôt sur une arrestation violente. J'avais envie de garder le mystère, et je voulais pas non plus faire de la police le symbole du meurtre, même si on sait bien que les refus d'obtempérer de ces dernières années ont buté plus d'un basané, mais je voulais être un peu prudent, et j'aime bien quand c'est pas... J'aime bien quand il y a de l'ambivalence. Toutefois, la police s'est durcie, tout s'est durci, et c'est paradoxal, parce qu'en même temps, il n'a jamais été aussi facile de se fournir. Donc, c'est toutes ces petites contradictions que je voulais mettre à jour. Enfin, c'est une partie du livre, et puis de voir comment tout le monde a le nez dedans. Mais je parle de Paris, mais ça pourrait être Alençon ou je ne sais quelle sous-ville de province. Donc, j'y vois un peu comme une dérédiction, mais une tristesse. Je pense qu'il y a une vraie tristesse.
Vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre ?
Ok.
Donc c'est...
Alors, ça va être la présentation de Saul. Saul est donc l'écrivain un peu raté qui se met à dealer sur le tard grâce justement à la facilité des applications et un peu par aigreur sur la classe dominante. Je m'appelle Saul. La conservation de l'espèce passe par son meurtre cérébral. Mon premier livre parle de ça. Des sacrifiés, des femmes et de l'enfance. Je voulais la fonte de l'enfer et du paradis. La fuite comme solution. J'avais travaillé dur pour mettre en forme d'une façon qui m'était propre une logique de sensation. Une arythmie du sens qui dise la catastrophe en cours. Mais je m'étais planté. Ça n'avait pas marché. J'avais cru que l'on me taperait sur l'épaule au moins pour le bien vu. Je m'étais imaginé des connivences et des rencontres merveilleuses. Une reconnaissance, mais nada. L'enfance du livre n'avait pas été lue. Aucune réparation n'était apparue face à ce que je considérais comme un tort de mon existence. Je n'aurais jamais les chiffres de vente de ce renégat de Nicolas Mathieu. J'étais pauvre. La vie avait filé en partie. Je ne supportais plus ma situation. C'est peu après que je me suis mis à dealer, visant les riches et le milieu culturel qui toujours m'ont regardé de travers. Je me suis mis à les fournir en poudre. Et, aujourd'hui, à 50 ans, je réalise que j'ai perdu une bonne partie de mon existence dans l'attente infantile d'une reconnaissance, d'un eye contact avec l'époque comme un bon clébard ou un nouveau-né. Peu de choses en moi sont aimables, mais je donne le change sans trop savoir comment. Je crois pouvoir dire que je suis un égoïste heureux du bonheur des autres. L'échec du livre m'a fait mal, d'autant plus que je me suis mis à écrire sur le tard. Je suis lent et orgueilleux. Ce caractère se coupe à une incapacité hors pair à m'engager dans le travail. Je suis un sale type qui veut tout sans effort. C'est ainsi que je définis ma liberté. Tout m'est dû. Non que je le mérite infiniment, ça je m'en fous, mais je sais être né pour vivre parmi les privilèges. Ma pauvreté m'apparaît la faute impardonnable de ceux qui possèdent l'argent. Dès le départ, j'ai été spolié. Je ne devais pas me retrouver là. J'ai toujours voulu écrire, mais je n'ai jamais écrit, sauf ce petit livre à thé avalé par la machine. J'ai toujours voulu profiter des luxes de l'existence, sans la moindre contention. Je n'aime guère agir, je n'aime pas les tâches, mais je suis en état de siège. Je suis aussi exigeant et séducteur, susceptible et loyal. Je suis dénué de narcissisme, et longtemps, je me suis démené pour les gens que j'aime. Ce n'est plus tout à fait vrai. Ma vie qui s'enfuit me paralyse depuis toujours. Nostalgique d'un monde qui n'a jamais été aimable. J'ai une colère inouïe. Un vide dans ma tête et un bloc de lave au niveau du plexus. Je ne retiens rien. Sauf des visages et des formes. Je n'ose dire des corps. Je peux reconnaître n'importe quel morceau de bolide à plus de 100 mètres. Je ne conduis pas, je pilote. Je suis inutile. L'élégance des êtres me heurte et étoile mes yeux d'allégresse. Je suis bavard et bègue. Une phrase lue peut me transporter si elle possède la vitesse et la violence nécessaires. La vie des autres m'intéresse. Je dirais même, mon âme possède l'extrême de l'ouïe pour la vie des autres. Je suis souvent sans pitié. Mon pessimisme n'a d'égal que mon désir de partage. L'alcool est une joie. Sans l'alcool, je serais mort. Je suis alcoolique, pornographe et doucement cocaïnomane. Sans la poudre, j'en saurais moins sur les vices en général et les miens en particulier. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Ne me juge pas. Ta tête dans l'écran, tes enfants scarifiés et dépressifs à force de réseau sont dans des drogues bien plus périlleuses. Nous sommes, ici-bas, tous des junkies en puissance. Toi aussi l'obscurité t'assaille, je le sais. Comment peut-il en être autrement? Je n'ai jamais rien fait pour quelqu'un que je ne connais pas. Je méprise les masses. J'aime le principe de famille, de groupe, de clan, si tu ne m'y obliges pas. J'ai l'âme d'un chef, mais je ne veux pas donner d'ordre parce que je ne veux pas que l'on m'en donne. J'ai peur de mourir. Le temps m'a jusqu'alors épargné physiquement malgré ma manière inconséquente de vivre. Vieillir me cisaille la tête. Les pensées à l'œuvre me fascinent. Je m'entoure de gens brillants pour planquer mes incapacités mentales. Je regarde la vie me filer entre les mains. Mais je saisis encore les occasions quand elles se présentent. T'écrire en est une. Je guette quelque chose du monde, c'est ma chance. Même si la frustration me bouffe, j'observe ce qui m'entoure. Et je vois les filets du temps serrer à la folie les armatures de nos espaces noirs. J'ai tout d'un raté, mais je suis curieux. Je suis en vie, en veine, perdu. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ma tête, je ne sais pas m'orienter. Je suis solide aussi. J'aime me délester du peu avec l'insouciance d'un nabab. J'en veux au système, là est mon alarme. Tout ça, je l'ai écrit à Antea quand elle m'a demandé pourquoi je dilais. Pourquoi je n'avais pas continué à écrire. Je n'aime pas la vérité, mais je m'efforce de comprendre comment j'en suis arrivé là. Je suis à la marge du néant, dit le poète. Est-ce que je dramatise mes paroles? Je dramatise, mais je n'ai pas le choix. Tout ce qui vient est vrai.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Istan Ray et nous venons d'écouter John Jefferson Selve nous lire un extrait de son roman La matière humaine, paru aux éditions Gallimard. John Jefferson, écrire, ça peut aider à prédire pour conjurer?
Ou ça peut permettre de conjurer pour prédire? Prédire, je ne sais pas si c'est un bon mot dans ce cas-là, même s'il faut toujours un léger coup d'avance. Mais je préfère le terme de conjuration. En tout cas, pour moi, l'écriture a quelque chose de l'ordre de la conjuration. C'est pour ça que j'y mets toujours une petite densité. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est pas quelque chose de calme. Enfin, c'est toujours un peu tendu.
Quelle est la drogue la plus dangereuse de notre époque? C'est la cocaïne ou le narcissisme?
De loin, très loin, le narcissisme. Et le narcissisme, le mot est compliqué parce que je pense qu'il faut une bonne dose de narcissisme déjà pour écrire ou pour s'insinuer dans les méandres de notre époque. Mais le narcissisme, il est cronenbergien maintenant. C'est un narcissisme qui difforme, ne serait-ce que par un cas très concret qui sont les filtres sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai vu des CV passer avec des personnes qui mettent des filtres, on dirait des toons. C'est-à-dire que le dysmomorphisme à l'œuvre est complètement délirant. Et ça n'a rien à voir avec un maquillage contemporain. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de... c'est dissocié, puis c'est fait par des algorithmes. Et je vois quand même, et ça touche un peu tout le monde, que sur les réseaux sociaux, les gens se filtrent. Donc... oui, c'est un narcissisme proche de ce que Cronenberg a pu montrer à une époque, c'est-à-dire le devenir monstre, et la défiguration. Donc oui, je trouve ça un peu plus dangereux.
William Burroughs parlait aussi, il disait que l'héroïne c'était une drogue effectivement dure, violente, qui entraînait beaucoup de catastrophes individuelles. Mais qu'arrivait une nouvelle drogue, bien pire, il parlait justement du narcissisme.
Bien vu.
Que peut l'écriture, que peut la littérature face aux écrans?
Pas grand-chose, je pense. Je suis assez pessimiste sur ça. Je pense qu'on fait partie des derniers dinosaures. Et en même temps, disant ça, je vois tout de suite que je me trompe, puisque je suis aussi professeur dans un master... de littérature, et je vois quand même plein de jeunes qui tentent et qui se mettent à la tâche. Donc ça, c'est assez beau. Toutefois, par la technique, tout le monde le sait, tout le monde le vit dans sa chair et dans son cerveau, le temps de concentration a diminué. Moi, c'est très compliqué maintenant pour lire 2 heures de suite. On est tous pris quand même, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. On est contaminé. On a la tête dans les écrans. Nos enfants ont la tête dans les écrans, et le temps de lecture, alors, sauf à lire des livres très simples, mais lire Faulkner, par exemple, ou Malcolm Lowry, ça devient un sport de combat, presque.
On va marquer une première pause musicale, et après, vous nous expliquerez pourquoi on a choisi ce morceau. Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman et on vient d'écouter un morceau des Dust Brothers qui s'appelle Stealing Fat et qui est un morceau qui a servi pour la BO du film Fight Club. On parlait de notre désappointement face aux écrans, voire un certain désespoir. Vous gardez malgré tout un sens du combat.
Ah ben, j'ai pas le choix. Enfin, nous avons pas le choix. Je pense que c'est réellement une question de scan. Enfin, je pense que dans le livre, il y a la figure de Simone Veil qui intervient très très souvent, qui est un peu l'obsession souterraine de Antea. L'attention, mais c'est compliqué, l'attention. Parce que on vit dans un monde où on a dérivé ce genre de mots vers la méditation ou bien la pleine conscience, toujours quand même à des fins d'un bien-être un peu bizarre, un peu pour coller au commerce. Mais non, je pense que oui, c'est un sport de combat, mais il faut relire les anciens, je pense. Et Simone Veil, dont tout le monde parle un peu maintenant, c'est une nouvelle très intéressante. Ouais, on voit quand même que ça va pas durer. Ça ne durera pas de cette façon-là, j'espère.
Alors, il y a une BO hein, dans votre roman, She's Lost Control de Joy Division, oui. Bela Lugosi's Dead de Bauhaus, Pornographie de Cure, Such a Shame de Tok Tok. Mm. Ça date pas un peu tout ça quand même?
Bah ouais, mais je suis un boomer. ça, oui, bien sûr.
En plus, des morceaux emblématiques qui sont vraiment archi canoniques.
Oui, mais ça, c'est réellement... tout ce qui est lié à l'enfance dans le livre est plutôt autobiographique, ce qui n'est pas le cas pour le reste, je ne suis pas dealer. Mais je me rappelle vraiment ce souvenir quand j'entends la voix de Ian Curtis pour la première fois sur une petite route du Perche, dans le casque, et c'est un choc. Et Tol Tok, Such a Shame, oui. Moi, c'est l'un de mes groupes phares, mais plutôt la période Spirit of Eden ou Laughingstock. Mais c'est quand même un être qui a beaucoup compté. Et j'ai appris énormément du travail de Marcolis sur le silence, sur Chocozen, sur le jazz, sur le free jazz. Et je sais pas. Bon, ça tâche à des figures. Moi, c'était une figure. Mais chez Lost Control, c'est aussi ce qui est lié dans le livre. C'est toujours lié à la perte ou à la souffrance des femmes. Et quand j'entendais cette chanson avec mon anglais catastrophique, je m'imaginais des choses de l'ordre de la rédemption ou de la commisération. Et il y a une autre chanson que je cite peu après, mais justement, qui est From Her to Eternity de Nick Cave, qui sont les deux figures, je pense, qui vont jouer sur ces deux premiers livres. Je pense que mes influences sont littéraires, bien sûr, mais elles passent beaucoup par la musique. Donc c'est pour ça, cette bande-son. Et Such a Shame, c'est... Je sais pas. C'était de l'imagination, mais ça a été un tube dans ma jeunesse. Donc,
Est-ce que ça montre pas aussi que, quelque part, on n'est pas sorti des années 80, que finalement, les années Thatcher, Reagan, ce sont elles qui l'ont emporté? Et qu'on est finalement, on n'en est pas sorti de ces années-là.
Je fais juste une parenthèse. En contemporain, il y a le rappeur TH, que j'aime beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Mais effectivement, les années Reagan, et Thatcher, mais bon, on est tellement plus loin. C'est-à-dire que l'ultralibéralisme a coquiné à l'extrême droite. Là, bon, on voit ce qui se passe. Des pays comme les États-Unis ou autres, ils voient ce qui va se passer en interne. Donc il y a un vrai sujet. On est plus loin, mais dans le négatif. Il y a eu un tour d'écrou. Et j'ai l'impression que je dis que des choses sombres.
Est-ce que votre roman, il n'acte pas la victoire du nihilisme?
Non, parce qu'il y a quand même ces amitiés et cette dérive nocturne. Et puis, il y a cette rencontre quand même entre deux êtres, entre Saul et Antea, qui est un mélange entre l'amitié et l'amour, mais je pense qu'il y a quelque chose de très beau entre eux. Et je veux dire, il est encore possible d'avoir des affinités électives. Non, c'est s'il y a bien quelque chose qui me rend très très positif, c'est les amitiés, c'est les êtres, quoi. Mais un par un. J'aime pas les clans, j'aime pas les idéologies, j'aime pas. On est plutôt tous des solitudes qui s'agrègent. Et je vois pas comment ça peut être autrement. Ça peut être autrement sur le politique, mais bon, j'ai une méfiance.
C'est pour ça que j'ai choisi le morceau de Fight Club. Vous parlez d'amitié, mais c'est clandestin, c'est presque des sociétés secrètes.
Ouais, alors moi je le fais pas trop, mais je crois que je ne sais plus quel écrivain disait ça, qu'il fallait remettre au goût du jour le principe du secret. Bon, on est à l'ère de la pure transparence permanente, donc c'est un peu difficile, mais ça pourrait être un cap pour tout le monde, je pense. Je crois que ça nous ferait du bien.
On a l'impression dans votre roman que le temps s'arrête, et l'histoire avec un grand H aussi. Un suspens temporel dans votre récit, comme si les personnages étaient enfermés dans quelques heures.
Ah oui, mais ils sont vraiment enfermés, et dans la ville, et au tout début, sous terre, dans les chiottes, de la boîte de nuit où Antea essaie de se voir dans le miroir. Ils sont tout le temps dans des lieux clos, ils sont tout le temps dans une sorte de carcération. Mais je sais plus ce que je voulais dire.
C'est le fait d'être enfermé, de se sentir prisonnier et de voir la drogue éventuellement comme un échappatoire, alors
oui.
Que tout le monde est lucide sur le fait que c'est un emprisonnement de plus.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est, je sais pas. Pour le dire autrement, est-ce que je préférais voir, là je vais être un peu provocateur, mais est-ce que je préférais voir dans 6-7 ans mon fils se faire une soirée avec des potes et quelques produits, ou bien de le voir toute la journée sur un écran en train de scroller sur des influenceuses.
Mmh.
Je crois que je préférais qu'il fasse un peu la fête et qu'il s'échappe. Parce que certes, la drogue ou la cocaïne contemporaine, c'est des choses un peu molles, c'est mélangé, c'est un peu sale, mais c'est comme les apéritifs, on a tous besoin de se mettre dans des états seconds, et ça peut être intéressant. C'est pas du tout intéressant pour travailler, je pense. Mais la vie n'est pas que travail. Donc, non, puis ça permet quand même de révéler certaines situations.
Ouais, on a quand même l'impression que la marijuana a accompagné un idéal communautaire hippie, que le LSD a permis une ouverture psychique inédite, que les amphés, d'une certaine manière, ont accompagné une révolution punk.
Mmh.
Et nous, on se retrouve avec la cocaïne qui justifie le capitalisme et le fascisme. C'est là où je voulais en venir.
Ouais. Alors, je l'ai longtemps cru, et je sais qu'on le dit souvent que la coke, c'est la drogue du capital. C'est vrai, et tout le roman passe par là, mais passe par là par sa distribution. Après, le produit en lui-même, je suis pas sûr. C'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt son système qui est chiant. Mais non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est pas une fuite, c'est autre chose, ça met un peu d'intensité, c'est artificiel, ça dure pas longtemps. Non, c'est plutôt les structures, ou comme ce qui est toujours drôle et toujours un peu décevant sur l'espèce humaine, c'est de voir les gens qui veulent y retourner, qui font des calculs, ça intéresse, ça met les gens dans un rapport d'intéressement, et ça donne pas le meilleur de l'être humain. Là, dans ce sens-là, je suis d'accord.
Est-ce que la cocaïne, c'est pas un peu l'eucharistie de ceux qui n'ont plus de foi ?
C'est joliment dit. oui, mais ça dure qu'un temps. Si on part du principe que l'eucharistie, c'est lié quand même à une sorte d'immortalité, là, c'est très court.
Mais il y a une quête de fraternité, quand même.
Oui, il y a une quête de communion. Je pense que les gens ont besoin de ça. Il n'y a rien de nouveau. Mais c'est vrai qu'on fait un peu tout contre, et que le rapport à l'extrême droite et le rapport à la drogue et sa distribution, c'est quand même une critique de la séparation. C'est des systèmes qui n'ont rien à voir, mais c'est séparer les gens. La technique, c'est séparer les gens. L'extrême droite, c'est séparer les gens. Bon, on n'a pas besoin de ça.
L'art est-il un échec ? Est-ce qu'il a échoué à remplacer la foi ou la religion ?
Ça dépend de quel art on part. À partir du moment où... Moi, je considère que la littérature est le grand art, presque. La musique, oui, mais à part ça, je moque un peu de l'art contemporain. dans le livre, il y a deux expositions, dont une qui est plutôt bien, mais ça commence par l'héroïne se trouve dans des chiottes qui ont été curatées par des artistes. Bon, ça c'est du commerce, ça m'intéresse pas trop. Mais cet art-là, je pense que oui, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Et c'est assez réactionnaire de dire ça.
Et vous pensez que c'est conservé en littérature, que la littérature échappe à cet écueil?
Bah, la littérature marchande, non, mais c'est quand même le seul endroit où on peut créer des mondes, vraiment creuser les parts sombres, les parts d'ombre. Je sais pas, je trouve qu'il y a la possibilité. Moi, les plus grands chocs, c'est la musique et la littérature. Et peut-être que je suis trop... c'est vrai que je manque de subtilité, je pense, pour ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu brutal et qu'on lise Proust ou qu'on lise Kafka ou Philippe Ross ou Lautréamont, je sais. Enfin, on se prend quand même des claques. Et c'est peut-être ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là. J'avais un peu envie de mettre une petite claque. Parce que je trouve que la littérature contemporaine peut parfois se reposer sur une sorte de doxa. Et moi, je voulais qu'il y ait du malaise. Je voulais qu'il y ait de la lumière, mais je voulais aussi qu'il y ait du malaise. Parce que moi, tout ce qui m'a plu dans le cinéma, dans la littérature et tout ça, c'était quand même des choses qui m'ont secoué. Et je trouve que on est dans une époque un peu anesthésiée. On n'aime plus trop ça. Voilà.
On est toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman. Et on va marquer une seconde pause musicale.
Prétends pouvoir parler sans précaution ni détour pour affirmer ce que j'ai vérifié, ce sur quoi on ne me fera pas revenir avec des doutes. C'est le disque de quelqu'un qui sait, qui n'en retire aucune fierté, parce que la vérité distribue la honte, honte d'être minable, égoïste et sans projet, si ce n'est celui de continuer à cultiver la seule chose qui ait porté ses fruits, l'idéalisme. Ce disque est son fruit, et aussi la preuve que je suis égoïste et minable, et aussi une grosse merde. Tous les disques sont de la merde. La seule chose qui n'est peut-être pas de la merde, c'est de savoir apprécier le silence. Je ne tiens pas spécialement à vous accrocher avec du style, mais j'y suis obligé. Sans quoi il n'y aurait sans doute pas lieu d'être commercialisé. Mais sachez bien que c'est de la merde. Tout ce qui fait qu'on parvient à décrocher un rôle dans ce monde vient de la partie la plus merdique de nous-mêmes. Celle qui mérite un salaire, le salaire de l'égoïsme. C'est toujours la même chose, non? Certains s'arrangent avec leurs illusions. Certains trouvent de quoi être sereins. D'autres viennent mourir pour rien, on est des premiers. D'autres viennent pour venger. D'abord je ne suis rien, quand j'ai eu la faculté de me battre, la bataille était finie. Quand j'ai eu conscience de moi et de ma vie, c'en était déjà décidé. La bataille ne se situe pas dans le temps, elle est le temps, c'est-à-dire une chose sur laquelle on est toujours en retard. J'avance en me sachant en retard, je repousse l'échéance, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si l'espoir me paraît être une drôle de danse. Il arrive un point où tu ne peux plus faire marche arrière sans renier ce qui t'a forgé. Ça fait partie des trucs à piger, vite, avant que les autres en profitent ou te protègent. Des erreurs tu pourrais commettre, ils disent n'importe quoi. Tant qu'ils le pourront, ils diront n'importe quoi, jusqu'à ce que la leçon rentre. Je te jure qu'il y en a un paquet qui attendent que ça, et c'est pas toi, ce sera un autre. Il arrive un point où tu n'arrives plus à te réveiller. Je te répète, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je ne fais pas de soucis, j'ai confiance, il m'arrivera rien. J'ai pas besoin des autres, ni de leurs promesses, ni rien pour décrocher un rôle dans leur kermesse. Au contraire, plus je m'en éloigne, plus j'avance. Et tu dois finir seul quand tout le monde aura vu vraiment qui tu es. Je me souviens, je pensais à demain. Plus j'y pensais, plus le temps semblait long, et les chances d'y arriver réduites. Et puis je pensais que demain serait le contraire d'aujourd'hui, et c'était des conneries. Demain c'est un poster aux chiottes, je l'ai compris. Demain c'est du parfum sur des croûtes. Demain c'est parler de cailloux lancés dans un lac, et de l'horreur qui est belle, de l'horreur qui est vraie.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de John Jefferson Selve, qui vient nous parler de son dernier roman, La matière humaine, paru aux éditions Gallimard dans la collection Aventure. On vient d'écouter Programme, le morceau s'appelle Demain. Alors, Matrix sort en juin 1999, 5 mois après, en novembre 1999, sort Fight Club, et 2 mois après sort Mon cerveau dans ma bouche, du groupe Programme. Vous aviez 25 ans, est-ce que ça a compté tout ça ?
Absolument. Enfin, Programme a été l'un des groupes très importants pour moi. Enfin, il y a eu une influence. Et encore aujourd'hui, je considère Arnaud Michniak, qui est le chanteur et le parolier, comme un poète. Et le groupe qu'il a formé là avec Damien Béthous, il y a eu 3 disques. Mon cerveau dans ma bouche, L'enfer tiède et Agent réel. Et ça a été des claques. Justement, ce que je disais tout à l'heure, des hypercutes, une sorte de rage. De rage incroyable. Dieu sait que j'ai pu embêter mes amis dans les soirées en mettant du Programme. Je m'en excuse, mais c'était vraiment bien. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et puis voilà, il a un sens quand même de l'agencement des mots. C'est direct. Il y a un autre titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruit direct. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la littérature. Quelque chose de brutal, de brutiste. Alors, quand on écrit, ça passe par de la versification, il faut travailler sur la prosodie. Mais je pense que dans le roman, ça aurait pu être un titre de Programme en Théa qui veut écrire, souhaite écrire un livre qui s'appelle Le plan primitif. Voilà, c'est vraiment un truc que je recherche, moi. C'est de se débarrasser de tous les oripeaux et d'aller à l'os. Donc, et Programme, du coup, je réalise, parce que je n'avais pas écouté depuis très très longtemps, et je vous en remercie. C'est un peu ça. Et oui, c'est mes 25 ans, donc c'est la moitié de ma vie, un petit peu plus. Ça y est, je vais devenir nostalgique, là.
J'aimerais vous dire sans condescendance que la littérature est avant tout une affaire de sauvagerie parce que le mot doit être à sa place et la mort dans son viseur. Faites-vous dire à l'un de vos personnages. Donc oui, savoir avec ça, c'est quelque chose de très frontal, de radical. C'est aussi quelque chose qui engage sur une voie, sur une route, et on ne peut pas faire demi-tour.
Ouais. Mais ce qui est important à préciser, c'est que donc il y a Saul et Anthea, mais il y a aussi, et dans la structure du livre telle qu'elle est faite, il y a la poudre qui parle. Et c'est une prosopopée. Je l'ai vu comme une hérénie moderne qui met les personnages face à leurs contradictions. Et elle est dure, elle est drôle. Et en plus, je crois que j'ai fait en sorte qu'elle aime bien ses personnages. Et là, c'est la poudre qui parle et qui leur dit le chemin à suivre au lieu de palabrer toutes les nuits sur une table basse à prendre de la drogue. Et donc oui, elle est capable de mettre à jour, pareil, dans une sorte de logorée, la violence pour tout à chacun.
Alors il y a aussi une autre phrase que vous donnez à l'un de vos personnages, que vous placez dans sa bouche. La société est une immense conjuration pour éviter la parole. La littérature commence par la peur de ne pas être entendue. C'est en quoi la société essaye d'étouffer, d'étrangler la parole avant qu'elle advienne ?
Moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare d'entendre de la parole. On entend du blabla, mais le blabla, c'est l'opposé. C'est que j'écoute la radio ou que j'entende les conversations au café, ça devient de plus en plus dur. Mais ça devient de plus en plus dur, encore une fois, parce qu'on est matrixé par les réseaux sociaux, par tout ça. Et je pense vraiment que c'est difficile de se parler. Et je vois même un phénomène, alors il est peut-être anecdotique, ça devient de plus en plus délicat d'appeler les gens au téléphone sans les prévenir. C'est-à-dire qu'il faut un prolégomène et une mise en attention, comme si c'était une effraction de pouvoir parler à quelqu'un sans que ce soit...
Oui, certains parlent de viol. Ils considèrent un appel sur leur téléphone comme un viol.
Ah ça, je ne savais pas, mais ça m'étonne bien.
Il y a des jeunes filles qui ont dit, et donc qui ne comprennent pas qu'on puisse les appeler. Et c'est assez paradoxal, puisque ce sont des smartphones, et plus personne s'en sert pour appeler.
Oui, oui.
Ce que des messages, ou des vocaux,
ouais.
Ou des vidéos maintenant. C'est énormément ça, les gens communiquent.
Alors,
comme ça.
Les vocaux, c'est très paradoxal, parce que ça reste, si j'ai bien compris, comme un message sur le répondeur.
Mm-hmm.
Si on laisse un message sur le répondeur, ça paraît intrusif. Et puis un vocal, non, mais ça fait partie des petites schizophrénies contemporaines. Mais oui, je pense que vraiment, la parole devient de plus en plus difficile. Et puis toutes nos informations, et les tweets, et les présidents, et les politiques. Les politiques, c'est un massacre. Ils ont tué le moindre principe de parole. Donc oui, c'est... Mais... Encore une fois, ça c'est les structures. Il y a quand même, pour le bon côté, il suffit de rencontrer quelqu'un en privé pour que les choses se passent. Là, je parle juste du monde dans lequel on doit se poser.
Mais en quoi ces rencontres individuelles ou intersubjectives peuvent porter un projet politique ou de changement en tout cas, ou de dissidence?
Je sais pas. J'avoue que j'y crois un peu... moyen, mais c'est peut-être parce que je commence à vieillir et je suis un peu nihiliste et cynique. Mais et puis surtout, je vois pas comment c'est possible de renverser la situation, sauf à faire des appels à la violence. Il faudrait revenir à l'armée rouge presque. Je le souhaite pas, mais c'est impossible. C'est pas les pétitions ou les trois manifs place de la REP qui vont changer quoi que ce soit. Donc, c'est délicat. Je laisse. Et comme je suis un peu vieux, je me mets de côté. J'espère quand même que les choses vont changer.
Vous êtes un peu vieux, mais vous avez un fils.
Oui.
Vous êtes père.
Donc ouais.
Vous êtes obligé de penser à lui quand même.
Tout le temps. Ouais. Je suis très angoissé sur ça, sur son avenir. Mais bon. Je garde un peu pour moi.
Ouais.
Je profite du temps présent.
Alors, il y a ici dans votre roman une métaphysique du bégaiement, hein, qui n'est pas seulement un handicap, toujours injuste, mais aussi un symptôme, c'est vouloir tout dire en même temps. C'est l'inverse de la répétition. Il faut que les sons deviennent matière. Ce mouvement de la langue, cette malédiction, entre guillemets, a à voir avec la littérature?
Je pense... Les gens qui m'écoutent peuvent comprendre que j'ai ça. Et quand j'étais jeune, j'ai eu une période où j'étais vraiment très très bègue. Et c'était dur. Ça a été dur, mais étrangement, j'ai toujours décidé de... Je sais pas, j'ai fait des interviews, je suis devenu prof. J'ai toujours été contre. Mais, et puis, il y a des moments où les choses se calment. Et puis, des fois, ça revient comme une sorte de vague. Et je pense toutefois... Et c'est mon éditeur qui me l'a dit il y a très longtemps, que ça a un lien sur ma manière d'écrire. Je pense que ce qui fait ma singularité vient quand même de ça. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. C'est d'une violence folle. Surtout que moi, je suis un bavard né, mais du coup, quand j'étais jeune, j'étais bavard que dans ma tête. Et c'était pas simple. Il y a une frustration. Donc, quand je traverse... des périodes calmes, je parle tout le temps et je saoule tout le monde.
Oui, dans votre style, il y a une rupture des significations, il y a une explosion des catégories. C'est important, j'allais dire, votre style, en tout cas dans l'écriture, on ressent ça.
L'idée, c'est que les choses ne soient... Enfin, ce qui compte pour moi, c'est que ce soit toujours dans l'ambivalence ou les appositions. Parce que je pense qu'on n'est pas qu'un, et je pense que l'un des fléaux de notre époque, c'est l'idéologie, qui est maintenant sociale, sociétale, qui n'est même pas de l'ordre du politique ou des grandes structures. Et on est bien plus compliqué que des concepts ou des idées. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse. C'est Deleuze qui disait ça, le percept. Moi, le concept, oui, mais tu me mets du percept et de l'affect même. C'est vraiment les choses qui m'intéressent le plus.
C'est qu'il faut savoir mélanger la science, la philosophie et l'art.
Ouais.
C'est ça l'idée de Deleuze.
Oui. Ouais. Oui. Et pas besoin de faire des références ou faire un livre plein de... Moi, je pense qu'il faut faire un peu le contraire. Il y a un mot que j'emploie beaucoup trop, mon cher ami Ferdinand, qui me corrige, me le reproche de temps en temps, c'est concrétion. J'ai l'impression que moi, mon grand plaisir, c'est de concentrer. C'est de concentrer toutes ces idées et toutes ces notations ou ces connotations qui me traversent et de les mettre vraiment dans une phrase. Donc du coup, effectivement, ça peut faire des phrases très étranges, mais c'est mon truc. Et je pense que ça fait passer une sorte de sensation qui est pas bien intéressante.
C'est toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de John Jefferson Selve, auteur de La matière humaine, sorti chez Gallimard dans la collection Aventure. Sartre et Bataille qui dansent ensemble dans un club de jazz pendant l'occupation. Elle est vraie cette scène ou vous l'avez inventée ?
Non, cette scène est vraie. Je l'ai d'abord lu dans un livre de Francis Marmande, qui malheureusement vient de nous quitter, dans un livre sur Bataille qui s'appelle Le pur bonheur. Je pense que c'est l'un des meilleurs livres sur lui. Et Bataille rapporte cette scène même lui-même. Et donc il y a une phrase comme ça, plus ou moins apocryphe, que l'un aurait dit à l'autre, vous êtes l'être et moi je suis le néant, qui est une phrase un peu Bela Tarantino, qui est un petit peu...
punchline.
Ouais, c'est une punchline qui est un petit peu nulle. Ouais. Et donc je m'en sers quand même comme d'une ritournelle. Mais c'est une scène vraie. Ouais. Ils font la danse de l'ours, qui était une danse très très à la mode. Ou bien ils imitaient le pas de l'ours.
Que Munch aussi faisait quand il jouait au piano.
Ouais, absolument. Quand on y pense, c'est fascinant. Parce que c'est quand même deux voix très très opposées sur une pensée de l'être. Donc voilà.
C'est deux auteurs qui ont compté pour vous, surtout Georges Bataille, je crois.
Sartre plus jeune, je pense que quand on lit La Nausée à 14-15 ans, c'est quand même une sorte de claque incroyable. D'ailleurs, livre que j'ai relu il n'y a pas très longtemps et qui est très drôle, qui est vraiment plein d'humour. Et Bataille, oui. J'en parle un peu dans le livre, quand on lit Histoire de l'œil très jeune, comme je l'ai fait, ça peut être qu'une sorte de choc. Et puis après, chez Bataille, c'est très intéressant, mais il faut savoir le quitter. Il faut le lire pendant 6 mois, pendant 1 an, puis partir 2 ans, puis le reprendre. Parce que c'est tellement riche, mais ça peut être tellement lourd. Et c'est pour ça que la figure de Simone Veil était très intéressante, parce que j'ai eu une image fausse de Simone Veil, entre guillemets, ou en tout cas qui a fait que je m'y intéressais pas, à cause d'un livre de Georges Bataille, où bien il décrit Simone Veil comme une chieuse totale, c'est dans le bleu du ciel, c'est Lazare, et il en fait quelqu'un vraiment de pénible, qui est dans l'absolu, qui est vraiment... une extrémiste, et j'ai toujours eu ça, et c'est vraiment il y a quelques années où je me dis, mais la Bataille s'est bien plantée. Et le livre, c'est une sorte d'hommage aussi à Simone Veil.
Donc il a porté, on peut le dire, une forme d'anarchisme chrétien.
Oui. Puis son parcours est délirant, parce que pendant que Sartre est sous l'occupation, en train de faire ses pièces, et que Bataille se morfond là où il peut, Veil, elle est dans l'action. Il y a quand même ça. Et ça me faisait rire, hein, parce que ça a été escamoté, je pense, pendant très très longtemps. Et c'est la bonne nouvelle que maintenant on se rend compte de ce genre de situation. Et puis en plus, c'est vrai que sa conversion est quelque chose de très intéressant, parce qu'elle garde en tête un marxisme très très puissant. Elle est juive, elle se convertit au catholicisme. Et il y a un parcours où qui est incroyable, parce qu'elle met, je ne sais pas comment elle fait, mais en tout cas, elle a trouvé sa propre voie qui fait qu'il n'y a rien qui s'oppose.
Il y a une soif d'absolu qui est commune.
Oui, peut-être
et
que...
Et de fraternité indéflectible.
Oui, et puis bon, elle avait une petite névrose, je pense, de l'absolu. Mais bon, en tout cas, ses textes sont incroyables.
Oui, alors il y a 3 Simone qui sont convoquées dans votre livre. Simone Veil, vous l'avez dit. Simone de Beauvoir.
Ouais. C'est celle qui organise la rencontre entre Bataille et Sartre.
Vous pensez que le féminin peut faire la synthèse entre des contraires, voire des opposés?
Ah, j'en suis sûr. Je pense qu'il y a que... Ouais, c'est de Meta Carpenter à ce livre, je pense que c'est la seule vérité dont je suis sûr.
Bernanos, ceci, est invoqué. Alors c'est marrant parce que tous les romans que je lis en ce moment citent Bernanos.
Ah oui.
Alors ça tombe bien en fait, les 100 ans de parution de Sous le soleil de Satan. Bernanos, pour vous, c'est plus que jamais d'actualité?
Bah, ça fait partie, encore une fois, de ce que j'aime dans la littérature, c'est-à-dire qu'il commence à l'extrême droite, il fait la guerre d'Espagne, et il se rend compte des exactions de son propre camp, et il a le courage de se battre contre, et Simone Veil le comprend. Et Simone Veil écrit à Bernanos une sorte de lettre sur leur expérience, une très belle lettre, et Bernanos la gardera sur lui tout le restant de sa vie. Donc, je lisais la bio de François Bangelier, qui est vraiment superbe, et du coup ça m'a inspiré.
François Bangelier qu'on a reçu ici, et qui va revenir au mois d'avril pour nous parler de Bernanos justement, puisqu'il organise, présidé un collectif d'écrivains qui parle de Bernanos. Et plein de choses vont se passer effectivement pour les 100 ans de l'apparition de Sous le soleil de Satan. Vous décrivez assez bien le monde de l'art contemporain dans votre roman. C'est un monde que vous connaissez parce que vous avez été le créateur et l'animateur de la revue Possession immédiate,
ouais,
qui faisait des passerelles entre les domaines de création et notamment l'art contemporain.
Oui. Plus proche de la photo que de ce qu'on appelle les beaux-arts. Mais oui, je le connais un peu, mais peut-être pas si bien, parce que j'ai beaucoup vu et je continue à voir des expositions, mais c'est pas le médium qui me parle le plus, là. En même temps, il y a des artistes qui m'intéressent, mais du coup, sur la revue, c'est vraiment de l'ordre de l'instinct. Justement, moi j'ai un petit souci sur la revue conceptuelle. Je préfère quand ça vient vite. Si j'ai besoin de lire un cartel de 50 lignes pour comprendre, ça ne m'intéresse plus.
Ouais, le mode d'emploi qui en
Oui. Ouais. Bon, après, il y a eu du chant, il y a eu des choses extraordinaires. Mais j'ai l'impression que ça se répète.
Est-ce que l'avant-garde n'est pas morte à cause de la pop culture?
Quelle question. Je sais pas. Les avant-gardes, je crois que c'était peut-être dans leur principe même d'être des lucioles et puis de mourir. Mais par contre, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a encore des avant-gardes, mais sous une autre forme. Je pense qu'il y aura toujours des avant-gardes, mais pas celles qu'on a connues, le grand jeu. C'est plus des petits intellos du lycée qui... Mais je pense que ça existe. Et puis surtout, ça va venir de la banlieue, je pense. C'est là où je trouve que Paris est sclérosé et asphyxié. Mais que ce soit de la banlieue ou bien de la campagne, même. Il y a plein de jeunes qui font des choses très bien. Mais c'est plutôt la topographie qui changera.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux mouvements musicaux les plus importants, on va dire, de ces 50-40 dernières années, c'est le rap et la techno. Effectivement, le rap vient de la banlieue, plutôt défavorisée, et l'électro vient de banlieue un peu riche, Versailles et compagnie.
Oui.
Effectivement, Paris n'est plus le lieu, le centre de création qu'il a été auparavant. Vous participez à une nouvelle revue qui s'appelle Aventure.
Oui.
Alors quel est ce rapport à cette revue et avec son animateur qui s'appelle Yannick Hanel, qui est aussi votre éditeur?
Oui, qui est mon éditeur et qui est aussi un ami de longue date, ce qui m'aide. Mon rapport, c'était très intéressant parce que j'ai arrêté ma revue au moment où lui lançait sa propre revue, donc c'était comme un fil et c'était très sympathique. Et c'est une constellation, c'est des amitiés et je suis très heureux de participer parce qu'il parce qu'il continue à découvrir des jeunes gens. Et c'est riche, c'est une rue très très, très riche. Donc oui, je ne sais pas quoi dire de plus, que ça permet des rencontres et de faire des ponts. Dans le prochain numéro, j'ai fait un entretien avec Valentin Rett, et c'était pas évident sur le papier qu'on ait des points communs, mais si vous lisez l'entretien, qui est très long, je trouve, et très réussi, je pense, on voit les ponts, on voit des choses, enfin ça m'a fait comprendre plein de choses, et c'est ce que je demande à une revue, c'est ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça me manquait tellement que je vais relancer la revue. Il y a un numéro pour mai.
Très bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
Vous reviendrez peut-être nous en parler.
J'espère.
Merci beaucoup, John Jefferson Self, d'être venu nous parler de votre dernier roman et de votre travail d'écrivain pour La matière humaine, paru aux éditions Gallimard dans les collections Aventure. On va remercier très fort Ronnie Clancy pour son travail à la régie. On pense à toi pour le 10 mars. Hein. On fête les 45 ans d'indépendance de Aligre FM cette année. La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Aligre FM et de répondre aux appels aux dons. Vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Ça nous soutient, ça nous permet de rester indépendants. Yves, tu nous écoutes, cette émission, elle est pour toi. La semaine prochaine, je recevrai Arnaud Robotini, le musicien, qui vient de nous parler de son travail, de cette dernière production. À très bientôt, soit lundi matin en rediffusion, soit en podcast. Voilà. Très bonne journée, très bonne semaine à vous.
Écoutez Aligre FM 93.1.